Bonjour. Ce matin, avant de vous présenter notre invité, bonjour Christian.
Bonjour Natacha.
Allez, on va faire un petit peu de poésie. C'est juste pour vous faire un petit peu deviner qui il est et de quoi il va nous parler. Alors, les arbres. Les arbres sont des poèmes que la terre écrit sur le ciel. Nous les coupons et les transformons en papier pour pouvoir enregistrer notre vide. Bonjour, monsieur notre invité.
Bonjour.
Permettez que je fasse une petite intro.
Pas de souci,
allez-y.
Après,
vous donnerez votre identité.
Tout à fait.
Il faut les laisser deviner un petit peu.
Oui, oui, oui.
Ouais, voilà. Alors, vous avez écrit dans un livre qui s'appelle « Manifeste pour la forêt ». Il appartient... Alors, qu'est-ce qu'un arbre, la question, bien sûr. Il appartient à la famille des plantes supérieures. Une appellation générique qui regroupe tout ce qui vit en étant fixé au sol grâce à son système racinaire supérieur, tout simplement en raison de sa grande taille, mais aussi de sa longévité. Plantes dites pérennes, ils peuvent vivre de très nombreuses années, voire même des siècles, et pour certains sujets, des millénaires. Selon la définition du dictionnaire Larousse, l'arbre est un végétal vivace, ligneux, rameux, pouvant atteindre une hauteur d'au moins 7 mètres et ne portant des branches durables qu'à une certaine distance du sol. Par la complexité et la diversité de leurs sujets, leur définition s'entrechoque, jusqu'à parfois être aux antipodes de ce dernier. Je vais vous poser la question, monsieur, qui êtes-vous ?
Ben, je suis Jean-Claude Noir, un ancien forestier, qui voilà. Aujourd'hui milite un petit peu pour la défense de nos forêts, de nos arbres.
Voilà. Alors, quelle est la définition, vous, de l'arbre que vous allez donner à nos auditeurs ?
Ben, l'arbre, déjà, c'est un être vivant, ce que l'on oublie trop souvent. Et en fonction de ce que vous avez lu, je rajouterai une petite chose.
Oui.
C'est qu'en fait, il peut vivre des millénaires, mais Francis Allais prétendait qu'il était même immortel dans la mesure où il n'a pas ce phénomène de sénescence que nous, les humains, nous avons. C'est-à-dire que les cellules qui se détériorent, qui fait que nous vieillissons et qu'à un moment donné, nous allons mourir. Donc l'arbre, normalement, n'a pas ce phénomène-là. Et s'il n'était pas, comment dirais-je, sujet à la maltraitance de nous, humains, ou des cycles, on va dire, climatiques ou autres, il serait quasiment immortel.
Alors sûrement que vous avez des choses à nous dire. J'aurais pu aussi vous poser la question, qu'est-ce qu'une forêt, puisque c'est le manifeste pour la forêt. Qu'est-ce que vous diriez à nos auditeurs sur l'ensemble ?
Ben, la forêt, déjà, c'est un groupement d'arbres. Pour un petit peu visualiser les choses, mais c'est beaucoup plus complexe que ça. En fait, c'est un écosystème qui se forge sur des millénaires avec à la fois l'assemblage du végétal, du minéral et tout ce qui est matière vivante. Donc en fonction de ces paramètres-là, il suffit que le sol change, il suffit que les essences changent et l'écosystème diffère et on n'est plus du tout sur la même forêt. Donc une forêt, ça relie effectivement plein de choses. C'est un assemblage un peu comme un puzzle très, très, très complexe.
Et notre double chère à notre Périgord, a été plantée par les moines il y a très longtemps. Ils n'avaient peut-être pas la culture pour faire une autre forêt qu'avec ça, pour assécher le sol.
Disons qu'ils n'avaient pas cette culture-là, mais ils avaient l'œil. C'est-à-dire qu'ils se sont aussi servis de ce qu'il y avait un petit peu sur les dunes à l'époque, ils fixaient les dunes. Oui. Et ils se sont servis du pain maritime qui effectivement était une essence qui poussait vite et qui était déjà plus ou moins présente. Mais il ne faut quand même pas oublier que la double de Dordogne, mais aussi la double girondine ou les Landes carrément, sont quasiment les mêmes écosystèmes. C'est-à-dire que ce sont des zones humides qui ont été effectivement asséchées. Mais initialement, c'était des zones humides, donc des zones de pacage, de pâturage pour les moutons, etc. D'ailleurs, les bergers à l'époque étaient sur de grandes échasses. Et il y avait quand même un entremêlement de tout ce qui était bosquet feuillu, notamment des chênes qui ont été éradiqués pour les chantiers navals à l'époque de Colbert pour la flotte de Louis XIV. Mais ça, c'est autre chose. Mais c'est vrai que ce sont des écosystèmes qui étaient très particuliers. Mais malgré aujourd'hui qu'ils soient plantés en pin, on voit bien que les sols n'ont pas trop changé, puisque quand il y a des incendies, on voit bien que la tour continue à brûler pendant des mois et des mois, voire des années.
Ouais. Christian, vous intervenez quand vous voulez, parce que je sais que vous êtes passionné par les arbres.
C'est
vous
vrai,
aussi.
C'est vrai. Alors, passionné, c'est peut-être un grand mot, mais
vous
c'est vrai que j'aime la nature
et
je l'admire.
Voilà, voilà. Alors, donc, qu'est-ce que vous avez à nous dire ? Les événements ont précipité certaines choses. Peut-être que votre discours a changé par rapport à votre livre, qui est très, très intéressant, parce qu'il est bien fait. On peut le mettre dans toutes les mains, même de celles des adolescents, parce que c'est eux demain.
Ben, c'est un peu fait pour ça. C'est-à-dire que c'est mon quasiment cinquième livre sur la forêt. Il a été un petit peu fait pour ce que vous venez de dire, à savoir qu'il y a plein de gens qui viennent me voir dans les salons du livre, dans les conférences, les débats, et on voit très bien qu'à travers leurs propos, ils sont, comme vous venez de dire à l'instant, ils aiment les arbres, ils aiment la forêt, mais ils ne la comprennent pas, ils ne savent pas qui elle est et qui ils sont. Donc j'ai voulu, à travers ce livre, faire un petit manifeste pour rappeler aux gens ce qu'est la forêt, ce qu'est un arbre, comment ça pousse, comment ça interfère, mais surtout les services que ça nous rend à nous humains, parce que sans la forêt, nous ne serions rien. Et contrairement à ce qu'on nous dit quand on dit que la forêt a besoin des hommes, il faut quand même rappeler que l'homme a 300 000 ans et que la forêt a quelques millions d'années. Donc elle a vécu sans nous jusqu'à ce que nous arrivions, et je pense qu'elle vivra sans nous quand nous serons partis. On fait tout pour pas trop rester longtemps quand même.
Alors votre sujet, vous allez nous développer quel sujet un petit peu pour nos auditeurs ?
Bah, je ne sais pas ce que je vais développer précisément, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on se rend compte que l'actualité fait qu'il y a eu de nombreux incendies, y compris en Dordogne, moindres que dans les Landes ou en Gironde. Mais c'est la même problématique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se rend compte que la forêt est en train de changer. C'est-à-dire que la vraie forêt, nos forêts anciennes ou nos forêts vieilles ou anciennes sont en train de disparaître au profit de monocultures résineuses, notamment le pin maritime chez nous. Si on monte un peu dans le nord du département, ça sera le Douglas, mais on reste sur des monocultures. Et on se rend compte que ces monocultures-là sont des plantations d'arbres qui ont pour vocation de satisfaire une certaine économie locale ou nationale, et que ça génère derrière certains autres problèmes qu'on n'avait pas trop appréhendés, à savoir le risque pour l'homme, c'est-à-dire le feu, notamment, mais c'est aussi les attaques de scolytes, c'est tout ce qui va avec, qui est généré justement par le phénomène de monoculture. Donc, effectivement, aujourd'hui, on se rend compte que cette économie galopante fait que les problèmes sont de plus en plus croissants, avec toute une gamme derrière qui suit, mais qui est induite par cette monoculture-là. Donc, aujourd'hui, la question qu'on doit se poser, et je pense que dans les Landes, on se l'est déjà posé, mais on se l'est posé déjà en 2022, on s'est rendu compte que ça n'avait rien changé, puisqu'on a quasiment reboisé l'identique. Qu'en sera-t-il suite aux incendies de cette année ? Je ne sais pas. Notre cher Premier ministre est venu sur place tout de suite en disant « on va reconstituer la forêt ». Qu'est-ce qu'il veut dire par là ?
Par là.
Voilà. C'est-à-dire que s'il veut suivre l'idée de son patron, qui consiste à dire qu'il faut planter 1 milliard d'arbres, et notamment 1 milliard de pins, ça ne va pas le faire. Ça va satisfaire une certaine catégorie de gens immédiatement, mais ça ne va pas nous satisfaire, nous, en tant qu'humains.
Est-ce que vous ne pensez pas que la valeur la plus importante qu'on devrait enseigner aux gens, et notamment aux jeunes, même dans les écoles, c'est le respect de la forêt ? Ce sont des êtres vivants, vous l'avez dit, et on leur doit le respect. Et on ne va pas faire un barbecue, on ne va pas faire les choses n'importe comment sans avoir le respect des conséquences que l'on peut engendrer. Respecter l'arbre, du fait qu'il est vivant.
Ben déjà, le respect, ça s'applique à tout, y compris aux humains entre eux.
Oui, mais pour un arbre, la forêt, voilà.
On voit très bien aujourd'hui qu'on est dans un certain individualisme qui fait qu'aujourd'hui, l'humain ne se respecte même plus, ni même en tant qu'individu. Donc ça devient compliqué de lui faire respecter quelque chose alors même qu'il ne se respecte pas. Quelqu'un qui va dans la forêt aujourd'hui faire un barbecue ou qui balance une cigale par la fenêtre, je veux dire, c'est quelqu'un qui n'est pas respectueux, mais de lui-même déjà, parce qu'il ne respecte pas des consignes de sécurité. Donc comment pourrait-il l'être pour cette espèce naturelle et cette problématique de forêt vivante ?
Parce que punir, c'est bien, mais ce n'est pas ça qu'il faut. Il faut instaurer autre chose dans la tête des gens. Justement par ce respect-là, dans l'école déjà.
Le problème, il est qu'aujourd'hui, on intervient toujours quand les événements se sont produits. Il suffit de voir, pour élargir le sujet, quand il y a un problème dans une banlieue ou qu'il y a quelque chose, quoi. Le lendemain, on vous dit « Ah, mais ce soir, il va y avoir 10 camions de CRS ». Sauf que c'est la veille que se sont produits les problèmes. Donc ça ne sert plus à rien. Les gens, ils ne vont pas revenir deux fois faire la même chose au même endroit. Et là, c'est la même chose. On sait depuis longtemps que les monocultures ne sont pas adaptées pour l'avenir, tant en termes de climat ou autre chose, mais c'est bon pour l'économie. Donc on ferme les yeux en se disant, vous savez, moi, quand je travaillais dans les eaux et forêts, combien de fois j'ai entendu des élus me dire, mais le temps de mon mandat, il n'arrivera rien. Donc c'est vraiment du court terme. Et partant de cet esprit-là, comment peut-on envisager le futur ? Donc tout ça, tout ce qui s'est passé là, on le savait. On le savait. Alors, on ne va pas rentrer dans les polémiques parce qu'on n'a pas tous les éléments. Mais est-ce qu'il y avait suffisamment de matériel derrière ? Est-ce qu'il y avait suffisamment de Canadair ? Peu importe. Le problème, c'est que qu'est-ce que vous voulez que fasse un pompier qui reste un humain avec une lance qui monte à 15 mètres de haut quand vous avez un pain maritime qui expose à 25 ou 30 mètres de hauteur et que l'humain ne peut rien faire ? Donc, le feu, il s'est arrêté là où il devait s'arrêter, tout compte fait. Hein. Il a mangé tout ce qu'il avait à manger, puis à un moment donné, il s'arrête. Mais c'est presque naturel, quelque part.
Mais alors, pour revenir un peu à la constitution des forêts, on parle de monoculture. Il faut rappeler qu'en Dordogne notamment, 99% des forêts sont privées. Donc comment inciter ces particuliers à passer à une variété d'espèces plutôt que la monoculture, qui est, d'un point de vue économique, plus rentable pour eux ?
Alors là, on est vraiment sur un sujet politique. C'est-à-dire que c'est un choix politique. Et aujourd'hui, le politique, au sens noble du terme, a fait le choix de la forêt économique au dépens de la forêt écologique.
Oui.
Les problèmes que rencontrent officiellement les forêts aujourd'hui, on voit qu'il y a... Alors, on nous parle de réduction d'effectifs, de tout ça.
Oui.
C'est une vérité. Le problème, c'est que si l'office... qui gère les forêts domaniales, donc les forêts qui appartiennent à l'État...
Oui, mais ça ne représente qu'un pour cent.
Oui, mais plus globalement, si on prenait en compte tout ce que la forêt rapporte, entre guillemets, ou procure, plus exactement, ça ne serait même pas quantifiable. On ne peut pas quantifier l'air qu'on respire, l'eau qui est filtrée dans le sol.
Oui,
donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on ne prend en compte que le matériau bois. Donc partant de là, le jeu est bipé.
Oui.
Donc en forêt aujourd'hui... Un politique, quel qu'il soit, mais ils sont nombreux, quand vous discutez avec eux, on ne vous parle que d'économie. On ne vous parle que de rendement.
Et
on
ne
vous parle que d'emploi induit, etc. Mais à quel moment on nous parle de tout ce qui est induit derrière, mais qui ne se voit pas et qui n'est pas quantifiable ? Jamais.
C'est un peu valable pour tous les services publics.
C'est valable pour tous les services publics. Alors pour répondre exactement à votre question, le problème, c'est que ce choix politique fait que les financements vont... à ce type de peuplement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on incite financièrement les gens à faire des monocultures.
Oui.
Donc, partant de là, les gens vont vers ce qui est subventionné, qui est fortement aidé.
Oui, oui, oui.
Il faut quand même rappeler qu'en Dordogne, malgré, comme vous dites, cette espèce de dispersion de propriétaires, etc., et le fait qu'il y ait 99% de forêts, disons, privées, 85% des plantations aujourd'hui en Dordogne sont subventionnées pour du pain maritime. 85%.
Oui. D'accord.
Donc c'est énorme.
Donc l'État a tout de même une part de responsabilité.
Mais bien sûr, il faudrait éventuellement mettre une partie de ces financements à disposition des gens qui veulent faire de la biodiversité.
Oui.
Un propriétaire qui veut faire de la régénération naturelle de chêne, aujourd'hui, il n'est pas aidé.
Okay.
Alors qu'il pourrait être aidé au prorata des travaux qu'il engage.
Ah, oui.
Mais ça, c'est pas... ça ne rapporte pas aux entreprises, tout ça. Donc,
D'accord.
Parce qu'un pain maritime, c'est celui qui pousse le plus vite. Donc ils peuvent retirer parti plusieurs fois dans une vie. Au moins deux fois, peut-être.
Disons que...
Combien un pain ? 25 ?
Moi, quand j'ai commencé à travailler dans les années 80, un pain maritime, on le coupe à 45-50 ans. Aujourd'hui, on est descendu à 35 ans.
Voilà, c'est ça.
C'est-à-dire qu'on a gagné en temps. Le problème, c'est qu'on le coupe de moins en moins, de plus en plus tôt, avec des diamètres de plus en plus petits, des volumes de plus en plus petits, parce que là encore, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, il faut adopter le matériau à la scie qui va le couper. Et aujourd'hui, les fameuses scieries qu'on appelle des canters, travaillent sur des diamètres particuliers. Donc au-delà, ah oui. le pain ne passe plus. Ah, ah, donc on le coupe jeune pour qu'il corresponde à un diamètre ah, oui. particulier qui va alimenter la scierie qui est faite pour le couper.
Ah oui, d'accord. Toujours rentabilité.
Bien sûr. Bien sûr, on est dans ce monde-là.
Alors on va faire une petite pause musicale et puis après on se retrouve, on se tourne vers Christian et pause musicale de votre choix et on va parler de cette belle forêt.
Eh bien, on va commencer par Grand Corps Malade 2083.
Cher Fabien, tu ne me connais pas encore, je suis ton petit-fils. Je t'écris depuis l'année 2083. Je te passe ce message afin que ton époque réagisse. Ici, la planète va mal, il faut absolument que tu me croies. Jakarta, Lagos, New York ont disparu sous la mer, mais aussi Venise, Londres et un tiers des Pays-Bas. Tombouctou et le Nord Mali ensevelis sous le désert, et le fleuve Niger n'a plus une seule goutte d'eau dans ses bras. Les villes côtières qui luttent contre la montée des eaux ont beau construire des digues, des barrages et des murailles. Elles ne pèsent pas bien lourd et éclatent vite en morceaux quand les cyclones et ouragans viennent finir le travail. Dans plusieurs pays d'Afrique et d'Asie du Sud-Est, mais aussi à Athènes, au Caire et quelques autres élus, il fait souvent 60 degrés, chaque été est un test où les riches vivent sous la clim et les pauvres ne vivent plus. Les changements climatiques ont été tellement violents que les écosystèmes n'ont pas eu le temps de s'adapter. Un million d'espèces, en plus des fameux ours blancs, ont disparu pour toujours, elles n'ont pas pu résister. L'année dernière, New Delhi a été entièrement évacuée, asphyxiée qu'elle était sous un nuage de pollution. À Pékin et Shanghai, une nouvelle loi vient de passer. Sans masque à oxygène, il est interdit de sortir de sa maison. Les sols sont tellement secs qu'il n'y a plus de vignes en France. Et dans plusieurs pays du Sud, l'agriculture est impossible. Quand les fermiers n'ont plus d'eau, on est au-delà de l'urgence. La famine et la misère sont devenues irréversibles. La sécheresse et la chaleur ont provoqué des millions de morts et des millions de réfugiés qui fuient leur pays. Les frontières sont des zones de combat dans les États du Nord. C'est la guerre en Europe, en Amérique et en Asie. Cher petit-fils, j'ai lu ton courrier avec effroi. Je crois bien avoir saisi l'ampleur de la crise. Mais pour te dire la vérité, pour nous en 2023, tout ce que tu me racontes là n'est pas vraiment une surprise. Ça fait plusieurs années, voire plusieurs décennies, que les scientifiques essaient vainement de nous alerter. Qu'il n'est pas encore trop tard, que le combat n'est pas fini, mais qu'on joue tous en ce moment l'avenir de l'humanité. J'ai toujours pas compris ce que font les grands de ce monde. Chaque conférence sur le climat est un terrible échec. Aucun G20 n'aboutit à des mesures profondes. Ils y vont en jet privé et se torchent avec les rapports du GIEC. Quand vont-ils déclarer l'état d'urgence climatique mondiale et contraindre les pays sur leurs émissions de CO2? Quand vont-ils rendre toute déforestation illégale, investir massivement pour consommer moins, consommer mieux? Les changements de comportement passeront forcément par des lois. Les politiques devront sortir de leur inaction. Il ne faudra pas attendre d'être en 2083. Dès aujourd'hui, les demi-mesures ne sont plus une option. Peux-tu demander à tous tes potes d'écrire à leurs aïeux de suivre ton initiative? Le combat n'est pas perdu, la terre n'est pas encore morte, mais la victoire pour le climat ne pourra être que collective.
Alors, on va revenir vers vous. Parce que votre livre, il est intéressant parce qu'il est fait, il est cloisonné. On a une question et vous donnez la réponse. et c'est vrai parce que nous, pour l'avoir lu, on se dit, mais qu'est-ce qu'il veut dire par là? Alors, on va chercher ce qui nous intéresse parce qu'on a des questions qui nous appellent plus que d'autres.
Bien sûr.
Et on trouve toujours une réponse. Et puis, c'est un livre qu'on peut poser et reprendre parce qu'on n'est pas obligé de tirer toutes les pages hein, dans une journée. On peut dire, tiens, aujourd'hui, je vais lire, répondre à cette question qui me tarabusque par rapport à ce que l'on vit au quotidien en ce moment.
Ben, c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que j'ai essayé de faire un livre qui répond un peu aux questions qu'on me pose régulièrement.
Oui.
Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que les gens ont beau aimer les arbres, la forêt, oui. Il faut aussi qu'ils la comprennent.
Oui, oui.
Et pour la bien la défendre, il faut la comprendre et savoir comment elle fonctionne. Donc l'idée de ce petit livre, c'est en fait de poser des questions et en fait de tenter d'y répondre sur un aspect technique, sur un aspect humain et sur un aspect environnemental. Oui. C'est vrai que c'est important.
Oui.
Mais comme disait Grand Corps Malade dans la chanson qu'on vient d'écouter, on ne peut plus se satisfaire aujourd'hui de demi-mesure. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça ne suffit plus. On sait très bien que ça ne suffit plus. Mais malheureusement, le politique n'est pas là pour prendre des mesures à long terme.
Et vous croyez que ça se rétablira pas dans le temps ? Qu'il n'y en a pas un qui va arriver en disant « il faut faire comme ça
ben ». Écoutez, je vous encourage à lire les programmes des gens qui se présentent à la présidentielle et vous allez comprendre tout de suite qu'il n'y a pas grand-chose.
Il n'y a pas grand-chose. Hein. Grand
Moi, quand j'entends les hommes politiques qui viennent nous raconter le soir aux 20h qui se présentent ou qui ne se présentent pas, quand vous leur posez la question sur l'environnement, c'est « ah ben oui, mais il faut faire de l'électrique pour les voitures ». On est encore dans l'économie pure et dure. Mais est-ce qu'on se rend compte qu'à un moment donné, la nature ne va plus pouvoir supporter tout ce qu'on lui demande, quoi ? Et c'est ça qu'ils n'ont pas pris conscience. Alors moi, aujourd'hui, souvent les gens me disent « mais pourquoi tu continues à te battre ?» puisque de toute façon, c'est voué un peu à l'échec. Ben, simplement parce que je suis en colère. Quoi. Je suis en colère parce que c'est comme dans un couple, quoi. Quand vous en avez un qui comprend plus l'autre, il y a des moments où on se pose la question de savoir s'il faut rester ensemble, quoi. Et aujourd'hui, le problème se pose clairement. Moi, j'en suis arrivé à un stade aujourd'hui où quand je discute avec des élus, on ne parle pas de la même chose. On ne parle pas de la même chose. On n'est pas sur le même laps de temps. On n'est pas sur le même discours. Eux, ils sont dans les... Voilà. Ça va créer des emplois, ça va ceci, ça va cela... Waouh, mais ouais, mais c'est bien quoi.
Mais est-ce que la population est sensible au changement climatique, aux problématiques de la forêt ? Est-ce que le politique ne s'adapte pas justement simplement à son auditoire et lui propose, lui vend ce qu'il veut entendre ?
Alors ça, c'est le discours de l'industrie qui nous dit on produit ce que les gens veulent bien acheter.
Oui.
Sauf qu'à un moment donné, on ne peut acheter que ce qu'on nous propose. Donc c'est un peu le serpent qui se mord la queue. On est bien d'accord. Je comprends votre question. Le problème, c'est que si j'ai écrit ce livre en partie, parce que c'est quand même le cinquième sur la forêt, ça commence à faire beaucoup, c'est parce que les gens se posent des questions. Donc aujourd'hui, on se rend compte que dans le débat, je pense que les problématiques environnementales écologiques tiennent un très grand... Enfin, sont au deuxième ou au troisième rang de préoccupation. Le problème aujourd'hui, c'est que... On va être clair, quoi. L'écologie politique n'apportera pas de réponse. Ça, c'est clair. Parce que l'écologie, c'est pas de la politique. Voilà. C'est une première chose. Donc, vouloir faire de l'écologie politique, ça marche pas. D'ailleurs, on le voit bien. Hein. Les écolos, quand ils se présentent, ils ont 3, 4, 5% des voix. Alors qu'ils représentent 100% de ce que les gens pensent globalement. Donc, il y a un problème à un moment donné. Alors, pourquoi ? J'en sais rien. Enfin, je le sais, mais je garde ça pour moi. Parce que ça devient un problème politique. Après, il faut quand même se poser la question de se dire mais pourquoi ça se passe comme ça ? Pourquoi ça se passe comme ça ? Donc si ça se passe comme ça, c'est qu'effectivement, ben, on est aussi un petit peu responsable individuellement de ce que l'on fait. Moi, j'ai des gens qui me disent bah oui, mais si j'avais su, j'aurais pas acheté de bois, l'avais appelé, parce qu'effectivement, maintenant, je me rends compte que... Mais le problème, c'est qu'on se rend compte toujours a posteriori. Après. Mais les campagnes de pub sont tellement bien faites pour nous engager vers ces trucs-là. Les poêles à bois, quand on les achetait, à un moment donné, vous étiez subventionné quasiment à 40-50%, voire plus. Donc les gens, ils vont dessus. Et après, ça n'est qu'après qu'on se rend compte qu'il y a un problème. Donc les gens sont vraiment conscients. Moi, je le vois dans tous les débats que je fais, les conférences, etc. Bon, je suis venu il n'y a pas très longtemps à l'Arbre à Palabre, à Ribérac. C'était en pleine canicule, un soir à 19h, on s'est dit on va avoir personne. Il y avait 45 personnes dans la salle le soir à 19h.
Oui, mais ce sont des convaincus qui viennent.
Pas forcément.
Parce que ce serait intéressant quand même d'aller faire un sondage, peut-être que vous intervenez dans les écoles, de faire un sondage auprès de la jeunesse pour savoir qui est vraiment sensible aux problèmes écologiques. Quand on voit la fast fashion, les fast-food qui ouvrent et les gens font la queue pour aller consommer dans ce type d'économie, ce serait intéressant de connaître la proportion de sensibilisation auprès de cette jeunesse.
Alors, quand j'allais dans les écoles, puisque maintenant j'y vais quand même un petit peu moins, j'allais souvent dans les classes premières terminales, donc des gamins qui ont 16, 17 ans. Alors majoritairement, ça c'est clair, ce sont les filles qui sont le plus, le plus convaincues et les plus sensibles. Est-ce que les garçons à cet âge-là manquent encore de maturité? Je ne sais pas trop. Est-ce que le fait de la maternité, de porter les choses, fait que peut-être on est plus conscient de ce qu'on va générer pour plus tard? Je ne sais pas non plus. Mais c'est vraiment cette tranche-là qui aujourd'hui est la plus réactive. Les quadras, les quinquas, etc., c'est fini. Ils sont sur leurs acquis et ils ne reviendront pas dessus. Donc, si on ramène ça au fait que ce sont aujourd'hui les jeunes de 17, 18, 19, 20 ans qui sont le plus sensibilisés, le temps qu'ils arrivent aux affaires avec les études qu'ils font aujourd'hui, il va se passer du temps. Et ce temps, c'est autant qu'on va perdre pour la
l'écologie.
On ne le rattrapera pas.
Bien sûr.
Ça va trop vite aujourd'hui, la dégradation, etc.
Oui, oui.
Et on nous ment sur tous les secteurs. Moi, je me rappelle à l'époque où j'avais fait une émission sur le front avec Hugo Clément sur la foresterie, effectivement, sur un petit peu l'utilisation des bois. Quand vous voyez que sur Gardanne, ils utilisent 800 000 tonnes de bois, il y en a 400 000 tonnes qui viennent d'Amazonie. Et quand on vous parle d'écologie et d'environnement, à un moment donné, ça dysfonctionne trop pour qu'on puisse croire qui que ce soit. Donc oui, on est individuellement tous responsables, c'est clair.
Oui, bien sûr.
Mais il y a un phénomène aussi, c'est qu'aujourd'hui, l'engagement devient problématique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens ont peur de s'engager. Parce qu'il ne faut quand même pas croire que c'est facile. Vous avez quand même, vous êtes surveillé, vous êtes... faut quand même pouvoir le supporter. Moi, j'ai quand même, depuis que je fais un peu de militantisme, qu'on appelle les lanceurs d'alerte, j'ai quand même été menacé plusieurs fois. J'ai fait quand même des dépôts de plaintes et des mains courantes. Voilà, parce qu'aujourd'hui, on touche à quelque chose qui... Moi, je le fais bénévolement. Je veux dire, j'ai pas d'intérêt, quel que soit, si ce n'est ce que je pense et ce que je crois bien. Mais quand vous vous heurtez à des gens qui savent pertinemment que vous avez raison... Vous savez, dans le livre, à un moment donné, je ne sais pas si vous l'avez lu jusqu'au bout, vous avez une scientifique qui parle des techno-rassuristes. Les techno-rassuristes sont des gens qui sont complètement conscients des choses, mais qui mettent leurs convictions de côté pour protéger l'industrie ou le secteur dans lequel ils travaillent.
Bien sûr.
Or, ce sont généralement des techniciens, des ingénieurs qui savent pertinemment où on va. On va dans le mur. Mais pour protéger leur emploi, pour protéger leur salaire et l'entreprise dans laquelle ils travaillent, on met un mouchoir là-dessus. On fait comme si ça n'existait pas. Et ça, c'est dramatique.
C'est l'autruche, quoi, la politique.
Exactement. Et ça, c'est dramatique.
Je peux vous poser une question. J'ai quelque chose qui m'est revenu quand on a des enfants en bas âge, quand ils vous posent des questions. Autrefois, il faut toujours revenir en arrière, parce qu'ils avaient leur savoir, ils avaient leur connaissance. Un paysan, un agriculteur, prélevait le bois dans sa forêt dont il avait besoin pour l'année d'après, parce qu'il faut le faire sécher pour sa cheminée à l'époque. Et maintenant, alors j'ai mon petit-fils qui me dit, pourquoi maintenant ils font des coupes, ils coupent tout? Parce que quand on va se promener dans les bois, il y a des grandes coupes franches, vous savez. Mais ils coupent tout. Et ça, c'est pour faire des pelés.
Alors, non.
Non, c'est pas ça.
Qu'aujourd'hui,
comment je peux lui répondre, là?
Alors, ce qu'aujourd'hui, on appelle les coupes rases, c'est-à-dire quand vous voyez des étendues de 10, 15, 20 hectares de châtaigniers qui sont coupés, ça, c'est pour faire les plaquettes. Les plaquettes, c'est ce qui va alimenter les chaudières à biomasse. Chaudières à biomasse, et on en a 80 dans le département qui a été commandité par le conseil départemental. Ce qui me fait peur, moi, là-dedans, c'est qu'on ne cherche pas à savoir combien ça va demander de surface
à couper
pour alimenter. Parce que quand on coupe un hectare de châtaignier, on coupe un hectare, mais il est coupé pour 25 ans. Il va falloir attendre 25 ans pour qu'il repousse. Donc ce n'est pas un hectare, c'est 25 hectares à chaque coupe, le temps que la rotation ne revienne. Rien qu'un exemple, l'hôpital de Périgueux, qui a une chaudière à biomasse, consomme 75 à 80 hectares de bois par an. Donc moi, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, ce n'est pas ça le problème. Mais est-ce qu'à un moment donné, quand on va multiplier par ça, par 10, par 15, par 20, par 30, est-ce que la nature va être capable
de se régénérer?
Alors, et c'est d'autant plus questionnant que, comme on disait tout à l'heure, quand on coupe des châtaigniers aujourd'hui pour ce qu'on appelle les coupes rases, 85% des surfaces coupées sont reboisées en pin maritime. Donc ça veut dire qu'on ne va même pas assurer de régénération derrière. Alors, pour répondre à votre question clairement, votre petit-fils, effectivement, vous lui expliquez qu'autrefois, vous coupiez 2-3 hectares, 2-3 serres, 4 serres de bois pour faire le bois de chauffage. Aujourd'hui, on n'est plus dans cette dynamique. Aujourd'hui, on coupe du bois pour faire du bois énergie.
Voilà, parce que lui, il est venu à me poser la question. Et pourquoi ils ne font pas comme avant? Pourquoi ils coupent tout? Voilà.
Ben, parce qu'avant, il n'y avait pas de chaudière à biomasse. Voilà. Parce qu'avant, il n'y avait pas cette politique du bois énergie qui est catastrophique. Vous savez, le bois énergie, quand vous voyez que quand vous coupez ces arbres, ce sont des arbres entiers qu'on met bord de route, etc. Vous avez vu après comment c'est exploité? Ce sont des gros broyeurs qui viennent et qui vous broient ça sur place, avec des rotations tous les 5-10 minutes de camions qui partent avec 18 tonnes de bois, de plaquettes. Et c'est fait que des espèces de gros machins qui vous renvoient une fumée noire de gasoil, parce que ça ne se coupe pas la tronçonneuse. Hein. Donc non, ce n'est pas écologique du tout.
Du tout, et oui, c'est ce qui est un peu. Pour ça, je vous dis, il faut se tourner vers l'avenir avec les enfants pour leur apprendre, pouvoir répondre à leurs questions. Parce que moi, ils me disent, mais pourquoi ils ont fait des granulés, le bois, ça brûle bien. Oui. Qu'est-ce que je réponds?
Vous savez, moi, quand je suis arrivé dans les années 80, dans les eaux et forêts, je m'occupais beaucoup du secteur du sud du département, ce qu'on appelle le sud Bessède, Villefranche du Périgord, tout ça. Il y avait beaucoup de châtaigniers, il y avait beaucoup de pins maritimes aussi. Mais c'est ce qu'on appelait des taillis sous-futés. C'est-à-dire que vous aviez un sous-bois en taillis de châtaignier et vous avez un étage dominant qui était du pin maritime, ce qu'on appelle le taillis sous-futé. La technique là-bas, elle était claire. C'est-à-dire qu'à l'année zéro, on coupait le châtaignier, donc on avait ce qu'on appelait une coupe rase. Okay. Mais moi, je différencie les coupes rases entre le taillis qui repousse, donc c'est une coupe normale, plutôt que d'un taillis qui est coupé et qu'après est ensemencé en pain maritime ou en résiné. C'est complètement différent. Et cette nuance, elle est importante parce qu'en un discours qu'on entend aujourd'hui, ce n'est pas toujours expliqué comme ça. Donc, à l'année zéro, on coupait. Donc, le sol était nu. Mais l'ensouchement perdurait. Qu'est-ce qu'il faisait à l'époque? Il prenait 4 ou 5 kilos de graines de pin maritime qu'il balançait à la volée. Et en sortant le bois, il tassait un petit peu les pins, etc. Puis il laissait la nature faire. Donc le châtaignier repartait et les pins germaient. 15 ans plus tard, il revenait, il coupait le châtaignier, mais il laissait les pins. Donc les pins, ça les boostait. Et le taillis, en repoussant, gainait les pins. Donc on avait des pins qui étaient bien gainés, avec pas de branches sur 10-15 mètres de haut, etc. Ils attendaient 15 ans de plus ou 20 ans de plus. Ils recoupaient le taillis une deuxième fois. Donc, il y avait deux fois le taillis coupé. Et à la troisième coupe, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils coupaient aussi les pins maritimes qui étaient arrivés à terme et qu'ils avaient 35, 40, 50 ans. Et ils repartaient. Donc, ça ne coûtait rien. C'était de la régénération naturelle. On avait des classes d'âge différentes. On avait un mélange d'essence. Et c'est ce qu'il faut encourager aujourd'hui.
Aux jeunes, parce que voilà. On va faire une petite pause musicale et puis peut-être on peut venir après un peu. On entend parler beaucoup de cette chose-là, le fameux bilan carbone.
D'accord.
Qu'est-ce que vous en pensez?
Pas de problème.
Eh bien, avant de parler de bilan carbone, on va écouter Monsieur Tout-le-Monde d'Aldebert.
Voyez-vous, monsieur? Voyez-vous, monsieur? Pourquoi dans les rivières on trouve des chaussures, à l'orée des forêts, des montagnes d'ordures, des usines qui crachent des tonnes d'hydrocarbures? Comment font les oiseaux, coquillages et poissons, quand ils ont sur la peau des kilos de goudron, si la mer n'est plus bleue, mais marron? Monsieur tout le monde, qu'avons-nous fait de? Monsieur tout le monde, qu'avons-nous fait de la planète bleue? On coupe dans la brousse les arbres d'Amazonie. Un nuage qui pousse s'est installé sur Paris. Parfois quand je respire, je tousse. Les neiges sont fondues au Kilimandjaro. On dirait que rien ne va plus car certains animaux déjà n'existent plus qu'en photo. Notre terre est sur les rotules, faudrait pas se calmer. Il se met aux fabules et se met à délirer. Annonce la canicule pour janvier. Monsieur tout le monde, qu'avons-nous fait de? Monsieur tout le monde, qu'avons-nous fait de la planète bleue?
Si monsieur tout le monde voulait bien on peut toujours rêver, voir un petit peu plus loin que le bout de son nez, éviter à tout prix que la plus belle des étoiles ne finisse sa vie en poubelle générale.
Voyez-vous, monsieur, j'ai mal au monde, on pourrait faire mieux à chaque seconde. Voyez-vous, monsieur, j'ai mal au monde, vous fermez les yeux, mais je l'entends qui gronde. Voyez-vous, monsieur, j'ai mal au monde, on pourrait faire mieux à chaque seconde. Voyez-vous, monsieur, j'ai mal au monde, vous fermez les yeux, mais je l'entends qui gronde.
Monsieur tout le monde, qu'avons-nous fait de? Monsieur tout le monde, qu'avons-nous fait de la planète? Monsieur tout le monde, qu'avons-nous fait de? Monsieur tout le monde, qu'avons-nous fait de la planète bleue? Voyez-vous, monsieur? Voyez-vous, monsieur? Voyez-vous, monsieur? Voyez-vous, monsieur? Voyez-vous, monsieur?
Alors, tout à l'heure, on parlait de l'empreinte carbone, alors on n'entend que ça. Quel est votre ressentiment ou votre sentiment par rapport à ce que l'on entend et ce qui est en réalité?
Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui, le réchauffement climatique, il est induit par quoi? Par nos émissions de dioxyde de carbone. Alors, effectivement, il y a les énergies fossiles, tout ce qu'on veut. Mais le problème, c'est que un des principaux éléments, non pas forcément réduire, mais limiter cette émission de carbone, ce sont les forêts qui captent le carbone. Le problème aujourd'hui, c'est qu'en détruisant ces vraies forêts, c'est-à-dire les forêts vieilles ou anciennes, où il y a un ensouchement qui est très vieux, etc., avec une réserve de bois importante, en détruisant ces arbres, ces forêts-là, on renvoie dans l'atmosphère du carbone. Ce qu'il ne faut pas oublier non plus, c'est que le sol contient à peu près 50% du carbone des forêts. Donc, en déstructurant les sols, en les défrichant, etc., on libère du carbone. Donc, aujourd'hui, tous les scientifiques s'accordent à dire qu'il faut maintenir les forêts, voire en reconstituer, voire laisser des forêts à l'état naturel pour capter ce carbone et faire en sorte qu'il soit pas émis qu'il n'aille pas dans l'atmosphère. Et aujourd'hui, on fait exactement le contraire. Parce que quand vous détruisez un taillis châtaignier ou une futaie de chêne ou n'importe quoi d'autre, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Vous émettez du carbone dans l'atmosphère. Alors qu'il faudrait le maintenir dans le bois. Une fois que vous avez balancé ce carbone dans l'atmosphère, au lieu de laisser repousser le taillis, qui après pourrait éventuellement continuer son travail, on en résine. Donc qu'est-ce qui se passe? Un pin, c'est comme un ado. Comme on le coupe très jeune, on le coupe quasiment à l'adolescence, quoi. Un peu jeune adulte. Donc il a besoin d'énormément de matière pour faire sa charpente. Donc il consomme du carbone, effectivement. Sauf que comme on le coupe très tôt, on relibère à nouveau ce carbone de très tôt. Donc c'est un cycle du carbone qui fait qu'il n'est jamais stocké ou de moins en moins stocké. Donc les forêts stockent aujourd'hui de moins en moins de carbone. Donc il y a de plus en plus de carbone qui se libère dans l'atmosphère. Donc c'est vrai que le bilan carbone aujourd'hui commence à être désastreux dans la mesure où on est en train de défricher et d'éradiquer. Alors la Dordogne, on sait où elle est, mais il faut voir ça à une échelle beaucoup plus grande, mondiale, avec l'Amazonie pour les palmiers, etc., enfin, le soja ou autre. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, tous ces phénomènes-là font que les forêts ne remplissent plus leur rôle de stockage de carbone.
Qu'est-ce que vous nous préconisez alors? Qu'est-ce que vous diriez, tiens, un enfant qui vous pose une question, justement, allant dans son sens? Est-ce que vous pensez, vous, que le réchauffement va durer ou c'est simplement une chose qui va passer? Oh, l'année prochaine, on n'en parlera plus, alors qu'il nous serine sans arrêt le contraire.
Ben, je ne suis pas devin.
Météorologue non plus.
Je ne suis pas devin non plus. Mais une chose est certaine, c'est que quand on écoute les scientifiques, ils s'accordent tous à dire que cette année, ça a été l'année la plus froide que ce qu'on connaîtra dans l'avenir. Donc ça veut dire que ça sera toujours plus chaud. Et puis il ne faut pas se faire d'illusions. Je pense qu'ils n'ont pas forcément tort. Il va falloir s'adapter. De quelle manière? C'est pas en mettant des climatiseurs dans toutes les maisons pour rejeter de l'air chaud qu'on fera les choses. Donc climatiseurs naturels, ce sont les forêts quand même.
Oui, tout à fait, j'allais vous le dire.
Mais on en revient toujours à la même chose, c'est ça le problème. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que j'étais en colère, parce qu'on parle toujours des mêmes choses, on appuie toujours sur là où ça fait mal, et il n'y a rien qui change, quoi. C'est dramatique. Donc, qu'est-ce qu'il faut dire aux jeunes? Il faut dire qu'il faut se battre pour garder nos forêts, parce que c'est quand même un bien commun. On disait tout à l'heure que c'est 99% de forêts privées, mais ce sont des forêts privées qui représentent un bien commun quand même, une forêt privée. Voilà. Donc à un moment donné, il faut faire la différence entre un bien vraiment privé et un bien commun. Il y a peut-être, un bémol à mettre là-dessus. Ce qui ne veut pas dire, comme on m'a dit souvent, tu es un communiste, tu veux spolier nos forêts. Ce n'est pas ça le problème. Mais pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure par rapport aux incitations, on pourrait très bien dire, par exemple, dans les financements, la forêt, c'est un bien commun, donc on l'aide financièrement à évoluer, mais on peut y mettre des conditions. On pourrait dire, par exemple, on met des éco-conditionnalités. C'est-à-dire que maintenir un minimum de bosquets à l'intérieur de massifs résineux, maintenir des haies et subventionner ce genre de choses, parce que c'est une perte pour la surface puisqu'on ne la reboise pas. Pour l'entretenir, on pourrait aider financièrement à ça, mais on ne le fait pas. Donc c'est là qu'on pourrait avoir un levier et inciter les gens à garder en disant on te paye pour le garder, l'entretenir. Et là, on irait vers des forêts diversifiées, ce qu'on appelle les gestions à couvert continu, où il n'y a pas de perte économique, en fait. Parce que quand on prend une forêt sur un siècle, qu'elle soit du pin maritime qu'on coupe tous les 30 ou 35 ans, donc on disait tout à l'heure, on va les couper 2-3 fois, ça ne rapporte pas plus qu'une belle forêt diversifiée où on va faire du prélèvement pied par pied. Ça ne rapporte pas plus et pas moins. Sauf que le délai n'est pas le même. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'immédiateté fait qu'on veut de l'argent rapide. Autrefois, les anciens, ils savaient très bien que le chêne qu'ils conservaient, c'était pour leur petit-fils. Aujourd'hui, ce même petit-fils qui a bénéficié de chêne du grand-père, il va vous dire « Ah ben non, moi je plante des pins parce que comme ça, je vais les recouper deux fois. » On n'est plus dans les mêmes dynamiques et les mêmes courants de pensée.
Oui, c'est dommage.
C'est dommage. Donc il faut s'adapter au changement climatique, il faut s'adapter au changement de mentalité. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, je suis en colère, parce qu'on ne voit rien bouger. Concrètement, on ne voit rien bouger. Vous savez, moi, vous me posiez la question tout à l'heure par rapport aux écoles. Je me rappelle, il y a quelques années, j'avais été dans un lycée à Périgueux. Une jeune fille, donc classe de terminale, 17 ans, 16-17 ans, qui est venue me voir et qui me dit « Monsieur Noir, je pourrais savoir votre âge ?» Bon, je lui dis « C'est pas très gentil de me demander mon âge. » Elle m'a dit « Non, vous allez voir pourquoi. » Alors je lui dis « Je donne mon âge. » Puis elle me dit « Il y a tout ce temps-là que vous avez parlé à discuter ?» Elle me dit « Ça a fait quoi ?» Et là, vous répondez quoi? Vous dites, t'as raison.
C'est
effectivement,
sûr.
J'ai peut-être fait évoluer certaines mentalités, j'ai peut-être agi sur certains leviers, mais concrètement...
Oui, bien sûr.
Et moi, ce qui me fait peur, c'est que sa réaction a été de me dire, mais aujourd'hui, il faut arrêter de parler, il faut agir. Et aujourd'hui, je me rends compte que pour répondre vraiment à votre question, on est en train de radicaliser une certaine catégorie de jeunes qui se disent, mais le discours, il n'est plus possible aujourd'hui. Ouais. Donc, il faut agir. Et ça devient compliqué à gérer.
Et on agit alors dans une certaine violence ou véhémence ou...
Déjà, il y a cette violence verbale où il vous envoie à la figure qu'effectivement, vous avez servi à rien depuis 40 ans parce qu'effectivement, rien n'a changé. Donc, c'est déjà pas facile à encaisser. Mais en plus, vous les voyez vraiment qui vous disent « Oui, mais aujourd'hui, il faut arrêter de parler. Il faut imposer les choses comme nous, on nous les a imposées. »
Donc... Et eux-mêmes, alors, font quoi? Concrètement.
Alors, concrètement, quand on leur dit venez avec nous pour discuter, ils disent non, votre discours, nous, on veut pas repartir pour 40 ans de plus. Donc, ce sont. Alors, après, on les voit plus. Moi, je les vois plus, ces gamins-là. Donc, je sais pas ce qu'ils vont faire ou pas faire. Mais je trouve qu'effectivement, on n'est pas aujourd'hui en capacité de rapporter une réponse concrète avec des éléments concrets. Et c'est ça le problème. C'est que laisser les gens dans l'interrogation permanente sans leur apporter de réponse ou de solution, là, ça devient compliqué. Et c'est pour ça que j'ai fait ce bouquin. Parce qu'ils ont des éléments de réponse. Comme je dis, moi, je ne détiens pas la vérité, mais une fois que tu auras lu ce que j'ai à dire, tu ne pourras pas dire que tu ne savais plus. Alors maintenant, tu fais ce que tu peux ou ce que tu veux, je ne sais pas.
Parce que je trouve que justement, les petits qui ont 7-8 ans, ils sont très intéressés par ça.
Oui.
Ils sont très intéressés. Et pourquoi le champignon, il pousse là-dessous? Parce que l'eau du champignon nourrit l'arbre, etc. Il faut pouvoir leur expliquer tout ça. Nous, les adultes, si on n'est pas capable de leur donner une solution, comment voulez-vous qu'ils avancent?
Oui.
Après, quand on vous pose... Nous, après, on est interloqué. Qu'est-ce que je peux dire pour sa compréhension?
Bien sûr.
C'est là qu'il faudrait justement avoir un enseignement respectueux.
Mais moi, mes enfants, ils sont dans la catégorie des 40. Alors, franchement, quand vous discutez avec eux, j'ai l'impression d'être un zombie, quoi. Il y a des moments, ils ne comprennent pas du tout mon attitude. Ah, oui. Hein. Ah, oui. Quand je leur explique qu'ils peuvent se passer de prendre l'avion 10 fois par an ou que, ou que forcément les week-ends, n'a pas besoin de prendre l'avion pour aller faire, Marseille, Bordeaux ou Marseille, Lille pour se promener, oui, t'as raison, mais ça s'arrête là. Après, on voit son propre intérêt. Par contre, effectivement, comme vous disiez justement, les petits-enfants qui, eux, ont 7, 8, 9 ans, 10 ans, commencent à être beaucoup plus conscients des choses.
Oui.
Ben, déjà, à l'école, on a mis des référents dans les classes, je ne sais plus le nom exactement que ça porte, il y a des référents environnementaux qui portent la parole. Donc, on les aide à penser comme ça et puis se rendre bien compte des choses. Quoi.
Ben, c'est une parole officielle.
C'est une parole officielle. Donc, c'est complètement différent.
Parce que quand on entend les inepties comme on les entend, quand ils vous disent « Ah, on va remettre des cendriers dans les voitures pour que les gens ne jettent plus les mégots. » Mais il faut quand même, quand ils jettent son mégot, il sait ce qu'il fait, le mec, là.
Alors hein? Oui, c'est vrai. Mais de notre côté, pour qu'on les enlever.
Oui, donc on prend le problème à l'envers. Alors on met que ça, c'est comme les...
Mais bien sûr.
Tout est à l'envers. Alors, voilà, on a trouvé cette solution, on va remettre le cendrier.
La nature humaine est ainsi faite. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est plus facile de balancer le mégot par la fenêtre quand on a la fenêtre ouverte et qu'on a le bras derrière. Bien sûr, mais parce que les gens
réfléchissent pas. Mais les conséquences.
Ah ben oui, mais les conséquences. Les conséquences. Bien sûr.
C'est un manque de respect. Envers
c'est
la nature.
C'est des responsabilités.
Et voilà, c'est ce que j'ai dit, le respect d'abord.
Mais aujourd'hui, on déresponsabilise les gens surtout. Hein. Regardez, sur un plan politique, on prend des décisions, on fait des référendums, on ne s'y tient pas. Donc il y a plein de gens qui se disent, mais à quoi ça sert?
Oui, bien sûr.
Et pour faire revenir les gens sur une conscience politique en disant, mais si, ta parole, elle peut aussi induire, ben, il y a tellement d'exemples qui montrent le contraire qu'il y a plein de gens qui se disent, mais... Pourquoi?
Ça ne sert à rien.
Voilà, ça ne sert à rien. Mais c'est vrai qu'un simple mégot, ça peut foutre le feu à tout un quartier. Quoi.
On l'a vu, hein?
Mais bien sûr.
Alors, si on doit en prendre conscience après des catastrophes, c'est un peu triste quand même.
Oui, mais c'est toujours après qu'on en prend conscience.
Ouais. Bah, c'est toujours quand il y a des morts à un carrefour qu'on met un feu rouge ou une signalisation.
Regardez, quand on voit les catastrophes avec les glaciers qui fondent, etc., les coulées de boue et tout, c'est quand même une conséquence du réchauffement climatique. Donc, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. La disparition des forêts, les émissions de carbone qui s'est... Tout est lié, en fait. Tout est lié.
Après, on va vous dire c'est le Niño. Mais le Niño, il a déjà parti revenir. Lui, il tourne, le Niño, par un nombre d'années. Donc, on n'avait jamais vu des choses aussi graves qu'aujourd'hui, quand même.
Mais oui, mais quand vous n'avez qu'un élément, vous arrivez à le contenir. Mais quand vous avez tout un tas d'éléments convergents, vous ne pouvez plus que tout contenir.
Bon. Allez, on va se faire une petite pause musicale pour nous remonter le moral. Et puis on se retrouve après, n'est-ce pas, Christian?
Eh bien, oui, on se retrouvera pour un tout petit moment.
Oui.
On va écouter Ta planète par Trio.
Et toi, qu'est-ce que tu vois? Et toi, qu'est-ce que tu vois?
Là-bas, les aurores boréales, les neiges éternelles, toute la beauté du monde qui nous interpelle. Je pense à nos enfants sous la voie lactée. Un beau jour, c'est la lune qui vient me parler. Je vois le soleil qui brûle au-dessus de moi. L'Amazonie qui fume à côté de toi. Mes frères et mes sœurs sur la même route, forcés de quitter leur terre. Coûte que coûte dans ton corps. Dans la ville folle a changé mon destin d'homme parmi les hommes. Retrouver l'essentiel après des années quand les marchands de sable veulent te faire oublier. Dans ton corps, dans ton cœur, c'est ta planète, ta maison, ton trésor que tu maltraites. C'est ton arbre que tu brûles d'une allumette. Tu as entre tes mains le soleil de demain. Dans ton corps, dans ton cœur, c'est ta planète, ta maison, ton trésor que tu maltraites. C'est ton arbre que tu brûles d'une
tes mains le soleil de demain. Et toi, qu'est-ce que tu vois?
Alors, comme vous êtes un homme qui est très, très pris, on ne va peut-être pas vous revoir tout de suite, mais moi, ça serait bien qu'on vous disiez comment on peut vous joindre, quelle manifestation vous avez dans une période proche, dirons-nous.
D'accord. Bah, écoutez, de toute façon, j'ai ma page Facebook, @forestierresistant, que beaucoup de gens connaissent, dans lequel j'annonce un petit peu toutes mes manifestations. Je vais effectivement parcourir un peu une grosse partie de la France, notamment la Corrèze, le Limousin, les Landes, Girondine, les Pyrénées, Pyrénées-Atlantiques, pour aller faire des conférences et débats. Et c'est vrai que la prochaine manifestation, qui n'est pas trop loin d'ici, c'est le week-end prochain. J'accroche une exposition de peinture, puisque je suis aussi peintre, sur ce thème de la nature et de l'environnement, à Opter sur Drône, et notamment à la fameuse librairie...
Très connu là-bas.
Très connu,
oui.
Voilà, donc je vais faire un débat, conférence sur mon dernier livre et les précédents. Et on va continuer après par une exposition de peinture. Et après, je vais embrayer sur Bazas, sur Mémac, tous ces coins-là.
Vous avez la date précise ou à Opter?
J'accroche le samedi prochain.
Ok, donc et la conférence, c'est le samedi aussi.
Et la conférence, c'est le samedi. Très bien. Après avoir... Donc après, il faut rester résistant où je mets toutes mes dates.
D'accord.
Parfait.
Alors venez nous voir en début d'année prochaine. Allez.
C'est promis. Vous avez
sûrement des choses à nous raconter.
C'est promis.
Pour nous remonter le moral.
Allez, pas de souci.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Et merci Christian.
Merci à vous. On termine avec Pomme, les séquoias.
Dans l'allée, en
dans l'allée des séquoias. J'ai respiré en entier pour une fois.